Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire qu'une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Aujourd'hui, je vous lis les deux premières nouvelles du recueil que j'ai écrit en 2013, Sanglier noir, pivoine rose, publié aux éditions de la Table Ronde. La première nouvelle s'appelle « Personne chez moi ». Ma mère avait toujours dit qu'il arriverait un accident à cause de cette foutue bête. C'était mort, empaillé, planté dans le mur, obstinément immobile, à prendre le sale et à nous regarder de travers. Ça la faisait râler tous les mardis. Ce jour-là, elle y passait un coup de chiffon, en même temps qu'elle époustait la bibliothèque de faux livres, la vitrine des chiens en porcelaine et la collection de porte-clés à l'étage. Elle disait « Je vais donner un coup sur la tête du cochon à ton père !» En réalité, un sanglier de 103 kilos à l'origine. Ma mère n'avait guère le souci du détail, le taxidermiste non plus. Le groin pendait, lamentable, conférant à la bête un air de pachyderme. Les pieds, montés sur des socles, étaient plus réussis. Ils servaient de porte-manteau dans l'entrée. La tête du cochon à mon père était monstrueuse. Mais je n'en avais pas peur, au contraire. Quand j'étais petit, Barney, c'est ainsi que je l'appelais, me rassurait. Depuis son arrivée, je dormais le nez en dehors des couvertures, certain qu'aucun malfaiteur n'oserait passer devant pareille horreur. Barni dans le noir, éclairé par le seul faisceau jaune d'une lampe torche, il ne devait rien exister de pire. J'étais tranquille. Barni veillait. Le matin, en guise de remerciement, je montais sur la chaise de mon père déposer des glands sur sa langue. Ma mère les enlevait le mardi en m'engueulant, ou bien il tombait tout seul et je me faisais engueuler un autre jour de la semaine. Je continuais, malgré sa désapprobation, à nourrir Barney. La sécurité n'avait pas de prix et j'étais du genre reconnaissant. Mon père disait l'avoir abattu en 1977, aux environs de la D-1604, un matin d'avril. J'appris plus tard qu'il l'avait heurté avec sa quatrelle alors qu'il revenait bredouille d'une battue. Le taxidermiste avait vendu la mèche. Je ne fus pas déçue pour autant. Barney restait Barney. Mon père restait mon père. 1m61 de hargne. Nous habitions une ancienne maison de garde-barrière. J'aimais les fenêtres encadrées de briques, les losanges découpés dans le bois des volets. Je trouvais que ça donnait un style. Les trains ne circulaient plus depuis longtemps. Mon père utilisait la verrière où demeuraient les manivelles du passage à niveau pour entreposer son matériel de chasse. Avant l'accident, mon frère et moi appliquions chaque dimanche pour le déjeuner. Nous prenions l'apéritif à la cuisine, mousseux et mini-saucisses. Ensuite, nous passions à la salle à manger. Pâté de lapin, viande, gratin. L'après-midi, on jouait tous les deux au basket dans la cour. On était bien. Marquer des paniers nous emplissait d'un bonheur simple. Il fallait seulement supporter les parents à table. « Ton gratin fait l'eau. Tu devrais t'essuyer la bouche. Là, non, pas là, là !»« Ben, j'ai mis la même chose que d'habitude. » »« Alors c'est le four. »« Mais il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que tu racontes ?»« Si !» Non, si! Oh, puis t'as qu'à le faire toi-même, hein. Je peux pas être partout à la fois, hein, au four et au moulin. Et puis t'en as mis partout sur ta chaise, Jean, là, comme les gosses, essuie-toi, t'en as là, non! Là, je te dis! Au dessert, ma mère racontait les derniers faits divers. Une gamine avait mis la main dans le hachoir de la charcuterie familiale. Une femme avait lancé son bébé du 6e étage. Un cueilleur de champignons avait reçu une balle dans la tête. Une telle avait disparu, ou avait été retrouvée noyée, ou découpée. Suivait la litanie des maladies. Le Fernand avait les reins qui lâchaient. Le Raymond s'était réveillé paralysé d'un côté et Gisèle avait du sang dans les selles. Toute la misère du monde tombait dans nos assiettes en même temps que la compote de pommes qui accompagnait invariablement la tarte maison. Mon père avait lui aussi des soucis de santé, du mal à dormir, du mal à pisser. La colère montait vite. « Qu'est-ce qu'il y a encore ? Et où tu vas ? T'es pressé ? On a le temps, non ? Oh, faut toujours que tu te presses. Oh, et puis t'en racontes des choses, hein. Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Rien ! T'as toujours un avis sur tout, toi. On peut rien te dire, toi. » De rage, il lui arrivait de taper dans la cloison en proférant « Nom de Dieu !» C'est un matin de juin que la fixation a cédé sous la multitude des coups reçus depuis 1977. Coups de chiffon et coups dans la cloison. Nous en étions au café. Barney est tombé droit sur la tête de mon père. Cri de ma mère, cri de mon frère, coulée de sang sur les tempes, trépanation. La pointe de l'écusson s'était plantée comme une pique à saucisse dans son crâne dégarni. « Je te dis qu'il a !» furent ses derniers mots. J'ai trouvé sa cour. J'aurais voulu lui en souffler d'autres. Des qui font bien pour la fin, des mots comme « Je ne regrette rien » ou « Je t'ai tant aimé, Martha ». Des mots qui auraient jailli comme des poissons dorés du bac de vaisselle grasse, qui auraient rempli les livres creux de la bibliothèque, fait se barrer les porte-clés publicitaires et hurlé à la mort les chiens en porcelaine. Mais personne chez moi n'était poète. Nous sommes loin aujourd'hui. Je travaille comme concierge dans un hôtel en Belgique. Mon frère vend des luminaires à Londres. Ma mère continue de passer le chiffon le mardi, un peu de tricot, ses porte-clés. Elle a fait réparer la cloison avant de raccrocher Barney.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Impasse conjugale totale. Le chat passe et repasse le long des mûriers, derrière le grillage. C'est un chat errant. D'habitude, il se sauve en me voyant dans le jardin. Il disparaît derrière la haie. Je ne cherche pas à le retenir. Je ne fais pas de bruit avec ma bouche pour l'attirer. Je ne dis pas « minou, minou, minou » les mains sur les genoux. Je ne fais rien de tout cela. Je le nourris, mais seulement de temps en temps. Ce matin, il est venu se frotter contre le bas de mon pantalon. Il s'est roulé devant moi. Il a posé sa tête sur mes pieds. Curieux. Il devait avoir un problème. Je ne sais pas. Je n'aime pas les chats. Il enfouissait sa tête dans mes pantoufles mouillées par la rosée et moi, je restais de marbre, piqué sur mes jambes, gêné. Je levais un pied, puis l'autre. J'avais la danse de Saint-Guy. Je lui disais de s'en aller. « Hep, le chat, va-t'en !»« Allez, va-t'en, barre-toi !» Mais il ne s'en allait pas. Un malentendu s'était glissé entre nous. C'est comme ça que je lui ai dit, un malentendu. Je le nourrissais, d'accord, mais je ne l'aimais pas. Je ne le caresserais pas, même pas du bout de l'index entre les deux yeux, fallait pas y compter. Je n'aime pas les chats. J'ai mes raisons. Avec le gouvernement qu'on a depuis 3 ans, on ne sait pas ce qui nous attend. On n'est à l'abri de rien. Il se peut qu'on ait une guerre. Et si c'est la guerre, il se peut que je n'ai plus de quoi me nourrir. Que je sois contraint de manger n'importe quoi, jusqu'à la queue des rats. Fatalement, j'en viendrai à loucher sur lui, le chat. Comment le caresser, sachant que je le mangerai demain, en fait bien avant les rats. Avec le gouvernement qu'on a, on est sûr de rien. Il se peut que je meure comme un miséreux chez moi, parce que je n'aurais pas eu de quoi payer l'hôpital. Il se peut que ma femme meure avant moi, faute de soins. Il est des femmes qui, si on ne les déleste pas de leur appareil reproducteur, à un certain âge, expirent. Si je meurs seule dans ma chambre, sans ma femme, comme un loup solitaire, et que le chat dehors ne trouve plus sa pâtée, je sais qu'il entrera chez moi, qu'il poussera la porte ou le volet mal accroché, qu'il avancera jusqu'à ma descente de lit, qu'il grimpera sur mes draps, lestes et faméliques, qu'il me mangera, peut-être en compagnie des chats du quartier. Alors, comment lui accorder ma confiance? Non, je ne l'aime pas. Nous sommes deux prédateurs qu'un léger dérèglement de nos existences ferait basculer cannibale, dîneur de l'autre, soupeur de ses liqueurs. Je préfère garder mes distances. D'autant qu'avec le gouvernement qu'on a, on est sûr de rien. Je n'aurai peut-être bientôt plus les moyens d'acheter des sacs de croquettes. Il devra chasser les oiseaux et les mulots qu'il déchiquettera encore vifs sous ses griffes. Cet animal est infréquentable. Si je lui verse parfois sa pitance dans une assiette creuse, c'est par pure charité. Au fond du jardin, il y a aussi une femme qui étend le linge. Je la regarde choisir la pince en fonction de la couleur du vêtement qu'elle s'apprête à suspendre à la corde. Chemisier vert, pince verte. Pantalon gris, pince grise. Drap bleu, pince bleue. Je l'observe. Son tablier plaqué sur ses jambes maigres. Ses cheveux empesés s'agitent autour de son visage et viennent lui barrer le nez. N'empêche, elle coordonne. Serviette blanche, pince blanche. « Ce qu'il y a comme vent aujourd'hui ?» lance-t-elle à mon approche. « Ah bon ? Tu trouves ?» Nous sommes en automne. Même la météo est un sujet de discorde, surtout la météo. Mais je suis vieux, et les ICT, comprenez impasse, conjugale, totale, ne m'excitent plus. Je passe mon chemin. Je remonte à la maison enfilée des pantoufles sèches, puis je descends l'escalier intérieur en ciment, que nous n'avons jamais pris le temps de peindre, ni de carreler, qui est brut, qui tourne, sans même une rampe sur laquelle faire glisser la main. Nous sommes habitués. Je me tiens au mur gris. Je traverse la buanderie dans laquelle ma femme fait sécher le linge l'hiver ou quand il pleut. Je baisse la tête sous les cordages, puis je pousse une porte en verre dépoli. J'entre dans mon atelier. Ici, je réalise des maquettes de bateaux en allumettes, principalement des voiliers. J'en ai 40, posés sur des étagères. Ce sont de petites maquettes, modestes. Je ne suis pas d'un naturel très patient. Quand je colle mes allumettes, je pense à la mer. Je vois les vagues déferler sur les rochers au pied des falaises, l'écume blanche et mousseuse à leurs crêtes, leur perpétuel roulis. Une vague égale une allumette. Une allumette égale une vague. Je sens l'odeur de la pluie, du dehors, de la tempête. Entre ces deux fenêtres, entre ces deux radiateurs remplis d'eau tiède, au son des gargouillis des tuyaux et du tic-tac de la pendule, dans mon ancien bureau d'expert comptable, là où je remplissais des colonnes de chiffres, ici même, j'imagine la mer. Une allumette égale une vague. Une allumette égale une vague. Je suis heureux de ne rien faire d'autre que de coller des bouts de bois les uns contre les autres. Je crée. Cependant, depuis quelque temps, je constate la disparition de mes voiliers. À l'heure où je vous parle, ma production ne compense plus mes pertes. Mes voiliers s'évaporent. La pièce se vide inexorablement et je ne trouve pas l'ouverture, le trou par où tout ça s'échappe. Mes voiliers s'envolent par le toit, par une fente. Mes voiliers s'envolent et je perds le sens des vagues, je perds l'air marin, le sel des choses, la cadence. Je suis fatiguée. Quelqu'un les fait-il brûler quelque part, sous un hangar, dans une cheminée? J'ai compté, il en manque 7. Je sais que c'est toi qui les jettes. Ma femme lève les yeux de sa grille de mots croisés. Sa mèche est bien en place, fixée par la laque qu'elle vaporise le matin en exécutant d'amples mouvements circulaires autour de sa tête pointue. « Il me gêne quand je fais la poussière, tes rafiots en mikado !» La colère monte. Elle m'empêche de respirer normalement. Je sens, c'est étrange, comme du coton envahir ma poitrine. J'explose. J'irai cracher sur tes timbres, Annick, cette nuit sur tes plus beaux, Cuba, San Marino. Les joues de ma femme sont devenues cramoisies, mais sa mèche n'a pas bougé d'un poil. Elle a vieilli, elle aussi. Les ICT ne la font plus vibrer comme avant. Elle replonge, tête baissée, dans ses mots croisés. Tout le rouge de ses joues s'est retiré. Elle attaque une nouvelle grille. Je préfère sortir. Marcher dans le jardin, ramasser les dernières pommes, quelques feuilles d'oseille pour la soupe. Le chat n'est pas là. Je ne le vois pas. Pas de chat. Je jette un coup derrière les mûriers pour vérifier. Rien. Personne. Il n'a pas l'air d'avoir touché à son assiette non plus. Une colonne de fourmis traverse les croquettes. Un mulot court sur les branches du lilas. Mais pas de chat. Minou, minou, minou. Je rentre. J'ai des allumettes à coller. Des tas d'allumettes. Des tas d'allumettes. Et pas de chat. Je n'aime pas les chats. J'ai de très bonnes raisons pour ça. Précises et gouvernementales.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. C'est-à-dire que une solitude qui en rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.